France Culture.
En fait, mon appart, il est. On devait aller dans mon appart, dans lequel je suis depuis pas longtemps, et dans lequel je suis quand je suis pas à Marseille. Et je sais pas, en fait, il est trop impersonnel.
Ok, mais c'est super d'être là.
J'ai peu de livres, mais c'est chez moi, quoi.
C'est parfait.
Ouais, c'est plus c'est chez super, moi, en fait.
France Culture.
Je peux rentrer le vélo?
Oui, c'est mieux.
Bon, c'est peut-être pas très agréable d'avoir ça dans le studio, c'est quand même un peu gros, non?
Il fut un temps, je mettais mon scooter à l'intérieur.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ouais.
Le book club.
Je sais pas, il y a pas un petit baisse immédiat du feng shui, quand même?
Le scooter, je trouvais ça assez cool, c'était un Vespa rouge.
Oui,
il a bien là, tu vois.
Oui.
Dans la bibliothèque de Léonie Pernet.
Je suis un peu en basse lumière, ça vous...
Comme ouais. C'est confort.
Ouais, pour moi, là, c'est bien.
Marie Richeux.
Ça fait un peu comme s'il y avait un épouventail, non? Pardon, avec
oui,
ma casquette,
vrai.
Avec ma veste, ouais, tout
ça. Ouais. Je pourrais presque avoir peur.
Un coussin léopard, un plaid léopard étalé sur un canapé, le tout plongé dans la lumière tamisée d'un néon. La vie est faite de détails et en voilà quelques-uns pour planter le décor. La musicienne Léonie Pernet nous ouvre les portes de son atelier, studio, lieu de travail et de vie. Une quinzaine de livres environ y est posée sur le piano et trône un peu à part. Une édition du recueil Poèmes pulvérisés que René Char fait publier en 1948 et qui rassemble des textes écrits entre 45 et 47. Poèmes pulvérisés au pluriel cette fois, c'est le titre du nouveau disque de Léonie Pernet, dans lequel s'entremêlent des matières sonores hétéroclites dont certaines font directement signe vers la littérature. Comme le faisait déjà sa chanson « Il pleut des hommes » sortie en 2021, qui citait la promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà, la lecture semble prise tout entière dans la musique ou dans son son, pour parler plus largement. « Je tamise mon verbe et j'exige poésie », chante Léonie Pernet dans l'un des morceaux de son disque, quand la voix de la comédienne Louise Chevillotte lit, elle, en ouverture de l'album, l'argument du recueil de René Char qui demande « Comment vivre sans inconnu devant soi ?» Une merveilleuse question d'ouverture pour un déballage de bibliothèque, on l'écoute.
Merci beaucoup de nous accueillir. Est-ce qu'on peut commencer par décrire ce lieu avant même de décrire la petite bibliothèque au-dessus du piano? Où est-ce qu'on se trouve?
On se trouve dans mon studio de musique, dans le 18e arrondissement de Paris, que j'affectionne particulièrement depuis longtemps.
Depuis combien de temps?
Depuis plus de 10 ans. Enfin, j'ai habité ici, ensuite j'ai cessé d'habiter là, j'y suis revenue et j'ai ce studio depuis presque 8 ans peut-être, 7 ans, 8 ans. Donc c'est une pièce au rez-de-chaussée où il y a, c'est vraiment mon atelier où j'enregistre, où j'écris, je compose. Donc il y a un piano, quelques livres, beaucoup de synthétiseurs.
Un piano. Ah oui, d'accord. Ça c'est pas un piano ça ?
Si, c'est aussi un piano, ouais.
Deux pianos.
Il y a un piano électrique et un piano droit acoustique, des synthétiseurs, des pédales, des enceintes, des percussions, une batterie, des instruments africains, pas mal de petites percussions. Voilà, les balafons. Un djembé, etc. Et un plaid
léopard,
dont le goût n'est pas sûr. Mais
sauf si l'on précise que le plaid est redoublé d'un coussin léopard. Et d'un seul coup
D'un seul coup, tout fait sens.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, tout à fait. Oui, une espèce de anomalie. ce coussin qui semble tout droit sorti d'Internet.
C'est vrai.
Ouais.
Bah, c'est probablement le cas d'ailleurs, non?
Absolument.
Il est même fabriqué par Internet.
Je pense.
Ouais.
Je pense.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'il n'y a pas de lumière naturelle?
Non.
Et c'est bien comme ça pour vous?
Alors non.
Ah.
C'est un grand déplaisir.
Okay.
Mais comme je donne vraiment sur la rue, qui est une rue assez très belle, mais assez agitée aussi. Cet endroit-là est très prisé par les dealers du quartier, tout simplement. Donc, j'ai obstrué, j'ai mis des rideaux.
Ouais, ouais. Petite façon de s'en... J'allais dire protéger, mais en tout cas...
Oui, de ne pas donner envie. Voilà. J'ai déjà eu deux petits cambriolages.
Okay.
Je trouvais que c'était bien.
Ça suffit.
Ouais.
Il y a des livres, en effet, qu'on va aller voir. Mais je ne sais pas, j'avais envie de dire quelques mots de ce vinyle qui est juste au-dessus du combo léopard, c'est quoi?
C'est un vinyle qu'on m'a offert récemment et que je n'ai pas encore écouté parce que je n'ai plus de platine vinyle dans ce studio. Et donc, ça semble être une école dans un pays d'Afrique qui m'est inconnu, avec une enfant qui se démarque des autres enfants. Je ne sais pas si elle est blanche ou si elle est métisse. Je pense qu'elle est métisse. Et ça s'appelle Troupe École Toudou, Oyewane.
On peut dire aussi qu'il y a deux stickers, dont un qui dit « Un jour, parfois, certaines heures, ne me compte rien, elle me comptabilise ».
Ouais, ça c'est un petit poème de d'Anne Mulpa, qui est une poète que j'aime beaucoup, qui est une amie de ma mère. Et elle avait fait quelques poèmes stickers comme ça. Et le rapport au temps, il est spécial ici, enfin quand on crée. Et parfois on le subit, parfois on le maîtrise. Et voilà, c'est un clin d'œil à ça.
Vous sauriez dire à quoi ça ressemble le rapport au temps ici ?
Bah, il est parfois, quand j'arrive à le distendre, il est beau et c'est le temps de la création. Parfois, il est trop serré. Mais c'est vrai qu'être sans lumière, avec toute cette, enfin avec peu de lumière du jour, mon petit néon de couleur, mes points lumineux, ça me permet de d'obstruer un peu la réalité.
Et donc d'accentuer la concentration éventuellement, ou quelque chose d'autre.
Oui, la concentration et puis faire fi de. J'essaie de couper mon téléphone quand j'arrive ici, de pas être dans un rapport au temps qui soit trop quadrillé.
Vous venez souvent ici travailler ?
Beaucoup, ouais. Enfin, quand je suis pas en concert, souvent je suis ici. Ouais.
Bon, donc il y a une petite bibliothèque sur l'un des pianos, sur le piano.
Tout à fait.
On y va ?
On y va.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça, c'est une édition originale du poème pulvérisé de René Char.
Qui donne son titre « Mise au pluriel » à votre dernier projet.
Exactement. C'est un cadeau qui m'a été fait pour mon anniversaire. Et c'est très précieux à tel point que j'ai mis plusieurs mois... Il était dans un petit carton. J'ai mis plusieurs mois à le sortir. Ce qui est absurde, évidemment. Et j'avais trop peur qu'il s'abîme, que le studio prenne feu... Et donc, ce poème pulvérisé, il est dédicacé par René himself. Mais une partie de la dédicace a été effacée.
Mais donc, au moment où on vous l'a offert, ça a été effacé ?
Je pense que c'était avant.
Ah.
Puisque la personne qui me l'a offert a mis un petit peu de temps à le trouver. Je crois que c'était chez un libraire ou un bouquiniste ou quelqu'un qui cherche ce genre de beaux livres et de raretés. Alors, c'est écrit pour le magnifique verger, mais on voit que ce qui précède et ce qui suit a été effacé, c'est signé de René Char. Alors, ma théorie, c'est que c'était intime, voire plus qu'intime.
Amoureux, quoi, peut-être.
Ou, tout à fait.
Ouais.
Peut-être illicite, je n'en sais rien. Mais comme il y a quelques traces qui subsistent derrière l'effacement, j'aimerais vraiment un jour l'emmener chez, je sais pas, quelqu'un qui travaille, qui pourrait révéler ça.
Mais la personne qui vous l'a offert n'a pas effectué cet effacement-là.
Non, pas du tout.
Donc il y a quelqu'un qui a remis en circulation un ouvrage de René Char, dédicacé par lui-même, en n'enlevant pas la totalité de la dédicace, mais seulement une partie, laissant cette phrase-là. C'est quelqu'un de poète aussi, non ?
C'est incroyable.
Ouais, j'adore.
Mais je pense. Mais ça nous laisse une clé. La personne a voulu s'en débarrasser. En même temps, c'était...
Pas enlever toute la trace non plus.
C'était pas... ça semblait pas partageable, acceptable pour le futur acheteur. Donc c'est un grand mystère. Mais comme le carbone 14, il y a un jour où je vais l'emmener chez qui de droit et...
On voit rien, j'imagine que vous l'avez déjà essayé 15 000 fois.
Oui, avec la lampe de poche. C'est dingue. Hein.
Ouais. Et c'était avant ou après avoir titré votre album comme ça ?
Je savais que j'allais l'appeler comme ça. Ouais. Voilà, donc la pièce maîtresse. Et donc le premier poème qui ouvre ce recueil, le poème pulvérisé, il s'appelle « Argument ». Et sur mon album, on entend la comédienne Louise Suviot qui le lit pour ouvrir l'album. Et là, depuis peu, maintenant, ça ouvre. Ce morceau-là ouvre mon concert. Voilà.
Donc ça, c'est à la fois une pièce maîtresse, mais une pièce récente, Léonie Pernet.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette bibliothèque ?
Il y a quelques partitions, qui sont des livres d'un autre style. Ouais. Quand j'ai du temps, j'essaye de me remettre un peu de classique sous les doigts, mais c'est pas facile parce que je déchiffre très lentement aujourd'hui.
Chose que vous avez fait beaucoup plus prestement avant ?
J'ai jamais été une très bonne déchiffreuse.
Ok.
Mais bon, ça se perd. Ensuite, y a plusieurs choses. Il y a un roman graphique de 1984, qui est très beau, qu'on m'a offert récemment. J'aime bien les romans graphiques, ça me plaît. Il y a un livre de poésie d'Élodie Petit qui s'appelle Fiévreuse plébéienne, qui est très beau, très puissant. Elle vient d'en sortir un, c'est une copine en fait. Elle vient d'en sortir un récemment sous le nom de Gorge, qui s'appelle Fatal. C'est une poésie très très queer, très et dedans elle a écrit quelque chose qui s'appelle le manifeste de la langue bâtarde. Et c'est vraiment une écriture très vivifiante et très très intéressante, qui est en écriture inclusive aussi. Mais ça va même plus loin que l'écriture inclusive en réalité. C'est vraiment une poésie de presque expérimentale, parfois. Il y a le recueil de Clara Isé, qui s'appelle Vivante, qui est une amie très chère aussi, avec qui je fais de la musique de temps en temps, et avec qui je partage la scène de temps en temps aussi, et que j'aime beaucoup, que je suis depuis le début. Il y a eu son roman, et il y a eu ce recueil... Donc j'aime beaucoup le souffle d'une bonne partie des poèmes. Et puis, on a cet amour aussi pour René Char, toutes les deux, et la poésie.
Globalement, c'est un endroit de partage pour vous, la littérature, la poésie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez eu l'habitude de faire circuler dans l'amitié, dans l'amour, dans les familles.
Oui, tout à fait. Il y a eu une pause, une longue pause. Et puis, c'est revenu dans ma vie. Et c'est vrai que c'est une histoire de partage. Oui, c'est vrai.
Vous faites ça aisément, quoi. Tiens, j'ai lu ce livre. J'ai lu ce poème.
Oui.
Je te l'envoie.
Ah bah oui, ouais, bien sûr. Même je la screenshot, quoi. Ouais. Je dis je la screenshot parce que j'adore lire de la poésie sur mon téléphone.
Oui, puis moi, j'adore screenshoter.
Ah, mais on est d'accord.
Ouais, alors on peut dire, donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est un anglicisme qui veut dire faire une capture d'écran. C'est un geste très jouissif. On appuie sur deux boutons sur le téléphone et on a une photographie de ce qu'on est en train de dire.
Et on encadre la poésie.
Ouais.
voilà.
C'est une petite bibliothèque. On peut dire qu'elle fait à peu près 20 ouvrages, Léonie Pernet.
Mm-hmm.
Elle a un sens. Je veux dire, les livres qui sont là, ils ont plus de sens que éventuellement ceux qui seraient éventuellement chez vous. Parce que là, on voit qu'il y a un mélange d'amitié, de cadeaux, de livres plus récents. Le fait qu'ils soient là, ça leur confère un statut particulier ou pas forcément ? Là, j'entends dans votre studio.
Oui et non, il y a des pièces maîtresses. Après, il y a aussi, comme je suis entre Paris et Marseille et beaucoup ici, il y a parfois les mouvements qui font tout simplement que des livres se retrouvent là plus que d'autres. Après, le poème pulvérisé, vraiment, je me demandais où j'allais le mettre et je me suis dit, sa vraie place, c'est ici. Ça, c'était choisi. Et puis, il y a les cadeaux, il y a tout ça.
C'est quoi le livre orange, celui-là ?
Ça, c'est Le Courant.
Ah ouais ?
Tout à fait, qui est une édition...
En français ?
C'est une édition traduite. Ça appartenait à une amie. Ouais, c'est très beau. Et
vous le lisez ?
J'ai eu une période, il y a quelques années, où je lisais régulièrement, j'écoutais...
Mais ce livre-là, ou les livres religieux de manière, ou les livres sacrés de manière générale ?
Alors, j'ai lu pas mal la Bible plus jeune, notamment l'Ancien Testament. Et ensuite, je me suis intéressée davantage à l'islam, et puis j'ai commencé à apprendre l'arabe classique, etc. Et puis, ça m'a...
Ça vous a quitté ?
Ça m'a quitté, ça correspond à une période où j'ai arrêté de consommer tout ce qui était mauvais pour moi.
Ouais.
Et effectivement, j'ai besoin de prendre appui dans une spiritualité vers laquelle je me suis dirigée de manière naturelle,
instinctive.
Instinctive, oui, c'est le mot que je cherchais. J'en suis moins proche aujourd'hui, mais...
Mais c'était un bon endroit, ces textes-là?
Oui. Enfin, ces textes-là, les textes religieux, c'est toujours très compliqué. Parce qu'il y a des miracles dedans, il y a des choses très belles. Et puis, il y a le reste, où on est entre les brebis, les vaches, et on ne sait pas trop qu'en faire. Et puis, toutes les parties très, très juridiques... moi, je ne suis pas exégèse, elle me... Si on... Enfin, certes, il faut les remettre en contexte, mais ça ne me parle pas. Mais je cherchais partout la lumière, la transcendance.
Et vous l'avez un peu trouvée là, à ce moment-là?
Ah oui, ouais, totalement. Okay. Totalement. Je continue ou c'est un peu trop long?
C'est-à-dire, on ne va pas tout détailler. Moi, je me suis arrêtée sur ce livre orange qui m'a rendue curieuse, aussi parce qu'il n'avait pas de titre. Donc ça, c'est toujours ça rend toujours... curieux, peut-être, je sais pas, il y a un livre de Raymond Depardon sur le désert.
Ouais.
Ça peut faire sens. Et puis ce serait notre dernier déballage, ou je sais pas.
Ouais.
Après, avant de passer à vos choix.
C'est un très joli livre. C'est un très joli livre où il y a beaucoup de photographies de Depardon dans les déserts, notamment du Sahel. Et je l'ai acheté pour avoir un petit bout de. Du désert avec moi, qui est une idée de territoire qui m'est chère depuis longtemps, dont sur laquelle j'ai écrit aussi, et évidemment qui fait le lien avec le désert du Niger où je me suis rendue il y a quelques années.
Et qui est présent dans Poèmes pulvérisés par la dimension, enfin probablement par plein de dimensions spatiales, de déplacement, mais aussi musicales. Est-ce que vous voulez en dire un mot de la façon dont ce désert-là et le Niger s'est frayé un chemin et existe au milieu de toutes ces paroles poétiques dans le dernier disque?
Ouais. le désert. Alors déjà, avant d'y aller véritablement, j'avais le fantasme du désert, le fantasme des origines de mon père biologique, donc qui est Touareg du Niger. Et puis ensuite, j'ai été en 2017 dans le désert du Maroc, où on avait passé quelques jours avec une amie marocaine, on avait dormi là-bas. C'était une expérience très forte. Et ensuite, donc, en 2022, je me suis rendue au Niger, donc rencontrer toute ma famille du côté donc, de mon père biologique, à Niamey dans un premier temps, qui est la capitale du Niger. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir aller dans le désert, donc au village, où j'avais une autre partie de ma famille qui était toujours donc dans un village sans électricité, enfin sans un endroit vraiment dans son jus. Et donc c'était extrêmement extrêmement fort et puissant, et ce désert déjà dans mon album Le Cirque de Consolation, il y a une chanson où je dis me conduiras-tu au désert, parler la langue des chiens errants, qui était un clin d'œil à un passage de l'Ancien Testament. Je la conduirais au désert, mais aussi à ce désir que j'avais d'y aller. Et ensuite, j'y suis vraiment allée. Donc je le chante aussi dans un morceau de l'album.
Bibliothèque Léonie Pernet, donc on va se diriger vers les livres que vous avez choisis.
Ouais.
C'est difficile d'être sérieuse avec ce... Difficile ou pas, avec ce coussin
léopard ? Oui, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ouais. Bah, l'absurde des choses est prise au sérieux, en tout cas.
Et en même temps, d'un seul coup, si on vraiment on le regarde dans les yeux, ce coussin léopard, on peut être mis au sérieux, quoi.
C'est plutôt un léopard en forme de coussin, même, je dirais.
Moi, je trouve que c'est vraiment un léopard.
Ça l'est.
Comme à chacun et chacune de nos invités, on vous a demandé de choisir ce qu'on appelle 5 livres étapes. Comment est-ce que vous avez interprété cette invitation, Léonie Pernet ? Vous êtes dit quoi ?
Ça m'a pris la tête au début, un petit peu. Et après, je me suis dit, mais fais simple. Ouais. Fais simple les livres que tu aimes, qui t'ont constitué, qui ont été importants, dont tu saurais parler le plus simplement possible, et qui se rattachent à moi ou à mon travail.
Et quand vous dites j'ai des périodes d'errance sans lecture, c'est que pour vous, ne pas lire, c'est forcément être en train de errer ?
Non, mais c'est quand même une forme de temps perdu.
Pas lire ?
Oui, je pense. J'ai vraiment cessé de lire à un moment dans ma vie. Enfin, ouais. cessé de lire des romans, d'une part. Et puis ensuite, j'ai recommencé avec des essais où je lisais beaucoup d'articles, etc. J'ai toujours lu. J'ai toujours lu énormément la presse. Beaucoup de choses théoriques, parfois, également. Mais il y a quelque chose qui s'est perdu et que j'ai retrouvé. Et parfois, je me dis, le moment où je passerai plus de temps à lire... On est nombreux à dire la même chose, je crois, mais je crois que ça sera une véritable autre étape de ma vie. Le moment où je ferai dans ma vie
la place pour ça.
La place que ça mérite et que je désire au fond.
Ah oui.
Mais
c'est comme si là, le temps accordé à la lecture, il n'était pas en accord avec votre désir parce que vous faites de la place pour d'autres trucs pendant
oui,
ce temps-là.
Oui, mais aussi, il y a aussi. Une concentration que j'ai peut-être perdue. Il y a parfois des moments d'addiction aux écrans. Ça, c'est vraiment du temps perdu, ça. Il faut éliminer ça. Après, j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup le cinéma. Donc,
donc ça, c'est pas du temps perdu.
Non, c'est pas du temps perdu. Mais je pense que c'est vrai que j'ai envie de ce moment, une autre étape de vie où ça sera une forme d'hygiène. Parce que c'en est une. Et quand je lis, je sens bien que...
Ça vous fait du bien.
Ouais, je trouve un calme qui m'est précieux, ouais.
Donc après, quand vous vous êtes dit « faites simple », »,« fais simple », c'est venu tout seul,
oui,
les 5.
Oui.
Ok. Est-ce que si on commençait par le livre de Stieg Dagerman, ce serait un bon début ?
Ouais, c'est un
bon L'ordre que vous avez soumis, c'est celui qu'on suit ?
Non, mais je n'avais pas spécialement d'ordre.
Ah ok, très bien. C'est un texte de 1952, donc de Stieg Dagerman, qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et il est publié en 84 en français seulement, dans la traduction de Philippe Bouquet. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous le découvrez, ce texte-là ?
Je suis chez mes parents, je ne sais plus exactement quel âge j'ai, mais je pense que j'ai entre 16 et 19 ans. Et
dans mon souvenir, l'édition, c'est un livre un peu fin comme
exactement,
ça.
Hein. Ouais, exactement.
Moi, je me souviens qu'il nous interpellait aussi.
Exactement. Tout à fait.
Le titre était. Enfin, il est encore d'ailleurs. Comme ça. Bon, on ne l'a pas sous les yeux là, mais.
Il est rectangulaire, très filiforme, très allongé.
Ouais.
J'avais été percutée. J'avais pas tout saisi, mais je sentais que c'était peut-être que c'était pour moi. J'avais été percutée par cette langue et par la sincérité et la nécessité du souffle. Et ensuite, voilà, donc je l'avais pris dans la bibliothèque.
Vous écriviez déjà ?
J'écrivais des petits poèmes à l'époque, ouais. Un petit peu de poèmes, ouais. Et j'en lisais pas mal.
Mmh.
Et ensuite, je l'ai relu. Enfin, je l'ai acheté. Je l'ai lu en PDF d'abord, j'y suis retournée parce que j'y ai repensé dans ma vingtaine. Et ensuite je l'ai acheté et c'est un texte qui a été important et qui a aussi inspiré en partie le titre de mon deuxième album, Le Cirque de Consolation.
On lit l'extrait que vous avez choisi ?
On lit l'extrait que j'ai choisi.
Allez, on vous écoute, Léonie Pernet.
Je suis dépourvue de foi et ne puis donc être heureux. car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose. Le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras ? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur.
Ce sont les premières lignes du texte dans la traduction vers le français de Philippe Bouquet. Peut-être qu'on peut dire quand même à propos de Stieg Dagerman, après ce titre-là, c'est que c'est un homme, un auteur qui s'est suicidé à l'âge de 31 ans. Il raconte là que, en fait, comme dit le titre, le besoin de consolation n'est jamais rassasié, et que même quand on le voit poindre, c'est toujours un horizon infini, l'horizon de la mort, enfin l'impossibilité, quoi. Et aussi, la question de l'héritage, quoi, qu'est-ce qui lui a été transmis, notamment dans le cadre de la spiritualité, ouais, pour résister à l'énigme dévastatrice qu'est l'existence, quoi. Qu'est-ce qui, de ces deux choses-là, vous a attrapé quand vous aviez 20 ans et plus tard, Léonie Pernet ?
Je crois que c'est certes le titre, mais cette phrase « je chasse la consolation comme on traque le gibier », je me suis totalement retrouvée, je me suis vue. Et ce paradoxe profond entre le désespoir, certes, mais aussi un désir de vivre et d'être consolée très fort. Je me suis retrouvée dans cette tension paradoxale. Et lui, il était anarchiste. Alors, effectivement, il parle du fait qu'il n'a pas de Dieu, il n'a pas de...
Comme s'il n'avait rien reçu en héritage pour faire avec.
Ouais. Moi, je me suis jamais trop sentie... je me retrouvais pas nécessairement là-dedans, puisque j'ai toujours... Justement, comme je traquais la consolation, j'ai toujours cherché une spiritualité, un dieu, une transcendance. Et ça a été ma consolation à moi. Et ça l'est encore.
Et ça fonctionne ? Parce que Dagerman, il écrit quand même que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que tu peux le traquer comme un gibier, mais tu tires dessus, et puis qu'est-ce que tu tiens dans tes bras ? Il dit aussi toute la... presque la vacuité de la quête, quoi.
Parce qu'il n'a pas la foi.
C'est d'ailleurs ses premiers mots.
Tout à fait. Je suis dépourvue de foi. Et ce que j'aime aussi dans ce texte, mais comme c'est pour ça que j'aime Pessoa aussi, notamment le livre de l'intranquillité, c'est qu'il y a une paix profonde, étonnamment, dans ce texte. Que j'ai aussi, même à l'endroit de ma mélancolie. Et alors, bon, effectivement, il n'a pas fait la paix, puisqu'il s'est suicidé. C'est de ça dont il parle aussi à la fin du texte, qu'on n'a pas lu, mais il parle du silence comme de l'endroit le plus inviolable. Et donc d'une forme de libération. Je je crois c'est pas le chemin que je me souhaite, évidemment, et c'est d'ailleurs il l'écrit, donc certes la mort c'est le vrai silence, mais quand il fait acte d'écriture
il va contre ça,
et je trouve que ça dit bien dans ce texte, mais comme dans d'autres aussi, ce qu'on cherche, l'impossibilité du langage, mais la nécessité absolue
d'en faire usage,
de le tenter,
ouais.
Pour vivre.
C'est marrant parce que je me suis dit ça en écoutant votre dernier projet Poèmes pulvérisés, qu'il y avait quelque chose qui tendait vers... Alors je sais pas si je me suis dit à quelque chose de théorique et quelque chose de sensible, mais en tout cas, vers encore plus d'hétérogénéité des intentions et des matériaux. Il y a des morceaux où il y a des messages vocaux, des archives de voix, des poèmes, des textes dits par des comédiennes, des textes dits par vous, des choses chantées, une orchestration. Comme si tous les moyens sonores à votre disposition et en élargissant de plus en plus la palette étaient mis à contribution et que tout fait matière, quoi.
Ouais, tout à fait.
De plus en plus, je dirais.
Oui. Oui, on a effectivement ça à voir avec autant que faire se peut, éclater la forme, c'est un bien grand mot, mais s'arrêter nulle part. Alors, dans le contexte d'un morceau, qu'il soit instrumental ou qu'il ait, que ce soit une chanson, bon, faire fi de la structure évidemment, mais effectivement de la source. Que ça soit des voix de manifestants de sans-papiers ripées sur YouTube ou des vocaux avec ma grand-mère au Niger avec qui j'échangeais ou le texte de René Charge lu par Louise Chevillotte, c'est tout ça est matière et c'est vrai que je me rapproche de moi-même et de ce que je veux dire aussi en utilisant la voix des autres aussi, quand même. Et ça devient presque plastique aussi.
Alors, de Roland Barthes, vous avez choisi « Fragment d'un discours amoureux », qui paraît en 1977, aux éditions du Seuil. C'est un livre très important dans l'œuvre de Roland Barthes, mais aussi, peut-être au même titre que Stieg Dagerman, un livre qui peut parler aussi à beaucoup de monde. Notre besoin de consolation, je pense qu'il y a... J'espère qu'il y a plusieurs générations qui sont tombées dessus, et de même, Fragment d'un discours amoureux aussi.
Bien
vous vous souvenez comment vous y arrivez, vous, à Fragment d'un discours amoureux?
J'ai un doute, pour être honnête, parce qu'il était, il devait être dans la bibliothèque de ma mère aussi.
Donc il y avait des livres chez vous?
Ah oui. Oui, tout à fait.
Parce que vous dites...
Ouais, ma mère m'a transmis le goût de la lecture.
Ouais.
Et ensuite, on me l'a... Mais je l'ai lu véritablement quand on me l'a offert. Alors, je l'avais peut-être parcouru chez mes parents, mais quand j'avais 19 ans, d'une personne avec qui on parlait beaucoup du... Bah, de livres, certes, mais du langage, de la langue. Et... Mais ça a été un grand choc. Un grand choc, pas pour les mêmes raisons, mais justement, je parlais du... C'est vrai que j'aime les textes un peu méta, comme on dit, qui parlent du fait qu'ils parlent de leur sujet. Et c'est un texte que j'adore.
On y va ?
Ouais, on y va.
Vous avez choisi quoi ?
L'entrée écrire. L'entrée écrire, mais parce que l'amour aussi.
On vous écoute.
Écrire. L'heure, débat et impasse auquel donne lieu le désir d'exprimer le sentiment amoureux dans une création, notamment d'écriture. Petit 1. Deux mythes puissants nous ont fait croire que l'amour pouvait, devait se sublimer en création esthétique. Le mythe socratique... Aimer sert à engendrer une multitude de beaux et magnifiques discours, et le mythe romantique. Je produirai une œuvre immortelle en écrivant ma passion. Cependant, Werther, qui autrefois dessinait abondamment et bien, ne peut faire le portrait de Charlotte. À peine peut-il crayonner sa silhouette qui est précisément ce qui, d'elle, l'a capturée. Ouvrez les guillemets. J'ai perdu la force sacrée, vivifiante, avec quoi je créais autour de moi des mondes. » petit 2, ouvrez les guillemets, la pleine lune d'automne, tout le long de la nuit, j'ai fait les 100 pas autour de l'étang. Fermez les guillemets. Pas d'indirect plus efficace pour dire la tristesse que ce « tout le long de la nuit ». Si j'essayais, moi aussi. Rouvrez les guillemets. Ce matin d'été, beau temps sur le golfe, je suis sortie cueillir une glycine. Ou, ce matin d'été, beau temps sur le golfe, je suis restée longtemps à ma table, sans rien faire. Ou encore, ce matin, beau temps sur le golfe, je suis restée immobile à penser à l'absent. D'un côté, c'est ne rien dire, de l'autre, c'est dire trop. Impossible d'ajuster. Mes envies d'expression oscillent entre le haïku très mat, résumant une énorme situation, et un grand charroi de banalité. Je suis à la fois trop grand et trop faible pour l'écriture. Je suis à côté d'elle, qui est toujours serrée, violente, indifférente au moi enfantin qui la sollicite. L'amour a certes partie liée avec mon langage, qui l'entretient, mais il ne peut se loger dans mon écriture. Je trouve que ça dit ce qu'on a évoqué sur l'amour, mais aussi dans, dans le travail d'écriture où on passe beaucoup à côté. De l'intuition profonde que l'on a au moment où on se met à écrire, qui est une intuition qui est avant le langage.
Mais qui serait comme difficile à traduire, Léonie Pernet.
Tout à fait. Mm. Et des intuitions esthétiques, des intuitions qui sont presque au stade de la synesthésie. Mm-hmm. On associe la naissance d'une pensée, une couleur, un sentiment, un paysage... notion d'espace. Et dans les chansons que j'écris, j'y passe beaucoup de temps. Je suis lente pour écrire parce que je sens bien que cette traque-là, je sais pas si elle est vaine, mais elle est difficile, je trouve.
On était chez quelqu'un précis, avec le sémiologue Barthes, qu'on quitte pour le troisième choix. Et c'est, j'allais dire, deux salles, deux ambiances, mais en réalité, c'est aussi quelqu'un de très précis. Puisque votre troisième choix, Léonie Pernet, s'est tournée vers Virginie Despentes, avec un texte, là aussi très important dans son parcours, King Kong Theory,
ouais.
Qui paraît en 2006 chez Grasset, et ensuite en livre de poche. C'est un livre... On pourrait dire que c'est un livre qui constitue souvent une porte d'entrée dans l'œuvre de théorique, tout du moins de Virginie Despentes. Est-ce que ça a été votre cas ?
Je l'ai lu à sa sortie, donc je devais avoir 17 ans. Et ça a été une déflagration. Parce que j'avais jamais lu ça, parce que... Mais à l'époque où elle l'a écrit aussi... c'était neuf, parce que j'étais très dysphorique, très troublée par rapport à mon genre. Et
vous cherchiez des réponses dans les livres ? C'était un territoire pour vous.
Je n'avais même pas idée que j'avais un trouble dans le genre. Enfin, pour moi, c'était un impensé.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui. C'était un impensé total. J'étais amoureuse de filles, mais je voulais être un garçon. C'était quand même 2006, c'était encore assez balbutiant en France. On parlait pas de gender studies, hein. Enfin peut-être dans certains milieux universitaires. Mais moi, à 17 ans, dans la ville de Reims, c'était pas...
Ça pouvait même pas prendre la forme d'une question pour vous.
Alors après, j'ai eu ensuite quelques lectures, Sam Bourcier, etc. J'ai pris contact avec la littérature lesbienne et puis des essais théoriques sur le genre.
Dès à ce moment-là ?
Mais après.
Après King Kong Theory ?
Ah oui, après. Ouais, ouais. Et évidemment, King Kong Theory, sur la question du viol, évidemment, c'est un livre qui a marqué beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, hein. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Donc ça faisait du bien, d'une part, de savoir qu'on n'était pas seul. Et puis, d'autre part, sur cette question du genre et cette impossibilité à être dans une existence de séduction par rapport aux hommes, d'en faire une force et de faire de la virilité, ce qu'elle appelle la virilité, et qu'elle sort du champ de la masculinité, sa puissance et sa condition d'existence aussi. Donc c'est un texte émancipateur à énormément d'égards, qui est transformateur aussi.
Et aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu ce texte-là, mais j'ai l'impression que c'était aussi des outils pour penser le viol autrement que comme une expérience accidentelle dans un parcours singulier ou dans un parcours individuel, mais l'inscrire dans un continuum de violence, le relier avec la masculinité toxique, le patriarcat. Enfin, c'était, d'un seul coup, ça sortait aussi le viol de juste pas de bol, pas de chance, cette rue-là.
Ouais, exactement.
Et ça, c'était, en tout cas, à ce moment-là, en effet, en France, une façon de le dire. C'était il y a 20 ans quand même.
Je suis pas une professionnelle, mais je pense que c'est la première, en tout cas, dans un livre qui est tombé entre beaucoup de mains, qui a politisé effectivement.
Grand public, en effet, parce que l'université s'y penchait, mais en tout cas, de cette façon-là.
Ouais.
On en lit un extrait. Ouais. Vous avez choisi le début ?
Le début. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé. On n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages féminins aux physiques ingrats ou médiocres, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et elles aiment tout le sexe. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique. Elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. C'est vrai. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre, que j'écris.
C'est aussi un sacré... une sacrée possibilité de ralliement, quoi. C'est qu'à la fois, elle dit « je suis là, je me trouve là, il n'y a pas de projet plus intéressant pour moi en ce moment que d'être Virginie Despentes », et en même temps, immédiatement, c'est comme si elle faisait foule, quoi. Elle tend la main avec ce texte-là, je trouve.
Ouais. Vraiment, j'imagine qu'il a fait du bien j'ai peu de doute qu'il ait fait du bien aussi aux femmes hétérosexuelles qui ont pu connecter avec un féminisme. Moi, je l'ai vraiment lu en tant que jeune lesbienne qui commençait sa vie et qui avait bien compris quand j'ai tenté l'hétérosexualité, parce que c'est ce qu'il fallait faire, que enfin, ça marchait pas du tout. Et j'aime aussi qu'elle crée ce nous, cette foule de femmes dont vous parlez. qui est une sororité, mais pas comme un vain mot, pas comme un bon mot. Son cri à elle, il est vrai, il est sincère, il est puissant. Et bon, on parlera d'Annie Arnaud après, mais de faire d'un récit intime une réalité politique qui se partage, c'est une voie essentielle.
Et c'est une voie que vous-même vous empruntez, ou enfin en tout cas qui parle dans la musique que vous composez, partir de quelque chose qui vous étreint vous très particulièrement, très intimement, et produire. Enfin, en même temps, je me dis, si on fait de la musique, on produit vraiment quelque chose à destination des autres, donc on cherche forcément à élargir le cercle.
Je crois que, en l'occurrence, je dis de plus en plus. Je lève le voile au fur et à mesure de mes albums sur ma vie, enfin sur des éléments biographiques, là où ça m'était plus difficile avant. En tout cas, je le gardais pour moi, alors que pourtant ça faisait déjà toutes les vies que j'ai vécues ont alimenté énormément mon travail. Mais oui, je crois. Après, évidemment qu'on est, on tente de faire commun. Quand on écrit un livre, quand on compose de la musique. Mais en effet, ce « nous », il est réel. Je ne crois pas que tout le monde soit dans une recherche d'un « nous » quand il crée.
Annie Arnaud, vous avez dit son nom ?
J'ai dit son nom.
Ouais. C'est un extrait de La Once, qui paraît en 1987, qui est signé de Annie Arnaud. Et c'est vraiment un récit autobiographique sur une qui part d'une scène à laquelle elle assiste entre ses deux parents, je crois, à Yvetot, eux-mêmes faisant face à une autre famille d'une autre classe sociale. C'est ça ?
Oui, et puis oui, il y a toute cette outre l'autre famille, il y a vraiment tout ce parcours de déclassement social qu'elle fait à partir du moment où elle. Enfin, de déclassement social, où elle se rend compte qu'elle est pauvre, où elle rentre dans cette école privée.
On vous écoute.
Nous avons cessé d'appartenir à la catégorie des gens corrects, qui ne boivent pas, ne se battent pas, s'habillent proprement pour aller en ville. Je pouvais bien avoir une blouse neuve à chaque rentrée, un beau missel, être la première partout et réciter mes prières. Je ne ressemblais plus aux autres filles de la classe. J'avais vu ce qu'il ne fallait pas voir. Je savais ce que, dans l'innocence sociale de l'école privée, je n'aurais pas dû savoir et qui me situait de façon indicible dans le camp de ceux dont la violence, l'alcoolisme ou le dérangement mental alimentaient les récits conclus par « C'est tout de même malheureux de voir ça ». Je suis devenue indigne de l'école privée. De son excellence et de sa perfection. Je suis entrée dans la honte. Le pire dans la honte, c'est qu'on croit être seul à la ressentir. En fait, oui, j'ai oublié de dire que le livre s'ouvre sur une scène traumatique où le père tente de tuer la mère. Et elle déroule tout son récit à partir de ce moment-là.
Annie Arnaud, c'est une autrice que vous lisez, spécifiquement, Léonie Pernet ?
Non, pas spécifiquement. Je me suis penchée sur son cas, effectivement, quand elle a eu le prix Nobel. Donc, je la découvre.
Et qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce texte-là, La Honte ?
Je le relis à un endroit au texte de Despentes, pas dans son écriture, mais dans déjà le rapport entre l'autobiographie et puis le fait de faire d'un récit intime un récit collectif, un récit commun. En l'occurrence, elle politise la honte, puisqu'elle elle part de donc cette scène traumatique qui lance son récit. Elle en fait une espèce de radiographie sociale totale. Et elle parle de la... On ne naît pas femme, on le devient. pour ne pas citer Simone de Beauvoir, et Annie Ernaux, elle écrit en fait que la honte s'apprend par les vêtements, par le visage buriné de ses parents, par l'alcoolisme. Outre la pauvreté qui est une condition sociale, certes, mais la honte d'être pauvre, ça s'apprend. Mmh. Outre la réalité matérielle de la précarité ou de la pauvreté. Et c'est des questions qui m'intéressent. Alors, bon, moi, je me sens pas transfuge de classe, véritablement, mais j'ai une forme de métissage de classe.
Jolie expression.
De par... j'ai commencé les premières années de ma vie, voilà, avec... les premiers mois avec ma mère toute seule, on était que toutes les deux. Et puis ensuite, elle a épousé Frédéric Pernet, donc, qui m'a reconnue, enfin qui m'a adoptée, je veux dire. Et ensuite, il y a une vie plus confortable qui s'est dessinée. Mais c'est pas celle qui était forcément prévue. Et donc... c'est vrai que sur ces questions-là de classe, de privilèges et tout, j'y réfléchis et parfois je ne sais pas tellement où je me situe. C'est pour ça que je dis que je suis... Enfin, je parle de métissage parce que je crois que c'est vrai. Et donc...
Donc métissage.
Mais en revanche, cette honte, je la connais. Parce que j'ai grandi, j'étais la première personne non blanche quand on est arrivé dans ce village au Ménil-sur-Oger, qui n'est pas Yvetot en Normandie, mais qui est un village dans les années 90 dans la Marne, donc difficile. Et c'est une expérience, celle de la honte. Elle parle dans son livre de la honte qui est dans le corps. Et c'est une expérience que j'ai faite à tel point que quand ma grand-mère m'a offert un livre de Tahar Benjaloun. Bon, le racisme expliqué à ma fille quand j'avais 9 ans. Mais j'ai eu honte, par exemple. J'ai eu honte qu'elle me l'offre, parce que ça voulait dire que donc moi, je pouvais subir du racisme, que je subissais par ailleurs, et que donc je n'étais pas blanche. Enfin, j'étais à un stade de haine de moi qui était très élevé et que j'ai tué, en fait. Et le silence, c'est la honte, ça génère du silence.
Alors, le dernier choix de cette bibliothèque va vers Romain Gary.
Tout à fait.
C'est La promesse de l'aube que vous avez choisi.
Ouais.
Dans l'œuvre de Romain Gary. C'est un texte qui paraît en 1960. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot avant de lire l'extrait que vous avez choisi ?
Oui, avec plaisir. C'est un texte que j'ai lu il y a longtemps, dans ma vingtaine, quoi.
Et beaucoup de choses se sont passées dans la vingtaine pour la lecture, manifestement. Parce que vous avez beaucoup dit ça, 19, 20 ans.
Oui, ouais. C'est vrai. Bah, j'ai pris un peu des textes fondateurs, quoi, aussi. Donc c'est le parcours de Romain Gary, donc c'est autobiographique, bien qu'il y ait des passages fictionnés, mais fictionnés pour dire la vérité, en fait. Et donc, c'est la promesse de l'aube, c'est cette promesse. Sa mère lui le destine à un très, très grand destin, immense, celui de héros, d'écrivain, d'ambassadeur. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Alors, Annie Ernaux, elle défait la honte par l'écriture, et lui, de par son écriture, ce qu'il est devenu dans la réalité, il incarne le rêve de sa mère. Sa mère, par la parole, a dessiné un destin pour son fils, et non seulement c'est advenu, et en plus, il poursuit cette prophétie en devenant auteur à son tour. Et donc il parle de la promesse de l'aube, c'est cette promesse écrasante que lui fait sa mère d'un destin immense. Et donc voilà.
Et c'est aussi l'amour, la promesse de l'aube, c'est la manière dont cette mère l'aime à l'aube de sa vie, qu'aucun amour ensuite ne saura égaler. Donc c'est à la fois c'est la morsure du diable.
Un petit poison.
Un petit poison.
Un petit poison.
Vous êtes beaucoup plus sympa avec la mère de Romain Gary que moi. On vous écoute par un dernier extrait.
Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant.
C'est prodigieux quand même.
Hein. C'est incroyable. C'est incroyable.
C'est tellement attrapé avec précision.
Ce texte m'a renversée parce que... Alors en effet, j'ai peut-être une perception elliptique de la chose et je vois davantage la promesse que le petit poison dont on parlait. Parce que moi aussi, j'ai une mère qui me dit depuis que je m'en souviens que j'étais géniale et que vraiment, ça allait être incroyable. Et il y a eu beaucoup de moments difficiles ensuite dans l'enfance, l'adolescence et cette dette d'amour... Elle peut être lourde à porter, mais au cours de la vie, elle peut devenir juste un cadeau, je pense. On a tout le temps de la vie d'adulte pour voir comment on gère ça. Mais selon moi, à la fin, l'amour gagne de toute façon. Donc même s'il s'agit d'un amour, en l'occurrence, là, étouffant, elle a fait son fils. Elle l'a fait, elle lui a dit, il l'a fait. Et c'est vrai qu'évidemment, je m'y retrouve aussi, parce que chaque fois que j'accomplis quelque chose, des grandes étapes, notamment dans la musique, évidemment, dans mon travail, je pense à ma mère. Et c'est une loyauté, un amour qui est fondateur, qui m'a à un moment donné, je pense... Enfin, ce que j'en ai fait, peut-être empêché ou en tout cas contrarié, j'avais du mal à aboutir, à réaliser. Et puis après, on dépasse ça et on... Mais je crois que oui, la dette d'amour, elle n'est jamais négative à la fin.
Merci beaucoup, Léonie Pernet, d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club.
Merci à vous.
Ouais, j'allais faire du piano.
C'est super ça pour nous.
Un peu. Enfin, par courtoisie. Enfin.
C'était un plaisir, merci beaucoup Léon.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci.